À l'instar du blues et du jazz américain, le jazz manouche est un peu l'exutoire d'un peuple qui a été opprimé. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui l'ethnomusicologue et anthropologue de la linguistique, Siv B. Lee, qui est rattaché à l'Université du Maryland et qui a mené une recherche exhaustive sur la symbolique culturelle du jazz manouche en France, pour la société manouche, mais aussi pour la France, pour la société française en général. Mais entre-temps, on écoute tout de suite une pièce du regretté Django Reinhardt, le père du jazz manouche, qui nous a quittés il y a 70 ans cette année. Djangologie, la pièce phare, en fait, de Django Reinhardt, qu'on entendait ici en compagnie de son comparse Stéphane Grappelli, pièce enregistrée à Rome en 1950. D'ailleurs, on va vous en faire entendre une version un petit peu plus moderne plus tard, mais c'est un peu, on le disait tout à l'heure, c'est le 70e anniversaire du décès de Django Reinhardt qui est carrément le père du jazz manouche. Et pour en parler, on a une dame qui a consacré beaucoup de temps d'études très sérieuses, qui est avec nous à partir du Maryland. Bonjour, Siv B. Lee. Comment allez-vous?
Bonjour, Marc. Je vais très bien. Et vous?
Ça va très bien. Je vous remercie. Bien, merci d'être avec nous.
Oui, mais c'est mon plaisir.
J'aimerais qu'on a plusieurs choses à discuter. Évidemment, vous avez produit beaucoup de matériel universitaire de haut niveau là. Vous êtes anthropologue aussi, vous faites de la linguistique, mais vous êtes intéressé beaucoup à la symbolique du jazz manouche et surtout ce que ça représente pour les manouches. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu là. Je veux dire la communauté manouche française qui, à travers Django Reinhardt et depuis, a vraiment utilisé cette musique là pour qui s'est popularisée en France, mais ailleurs dans le monde aussi là. Ça a commencé comment pour vous, cet intérêt, cette recherche, ça vous dit quoi?
Alors, bon, merci pour ces questions. Je peux parler beaucoup de tout ça, mais je vais peut-être juste commencer par le début de mon intérêt à ce sujet. Alors, moi, je suis violoniste et altiste et j'ai eu une formation classique à la base, mais quand j'étais adolescente, je me suis intéressée au jazz et si on joue du violon, normalement, si on s'intéresse au jazz, on écoute d'abord Stéphane Grappelli,
ben oui.
Bien sûr, après Django Reinhardt. Donc, j'ai commencé par là et donc j'ai appris beaucoup de morceaux de ces musiciens, mais je me suis aussi intéressée à la culture de Django, parce que j'avais entendu de ce qu'on appelle en anglais les gypsies, mais je connaissais rien de cette culture, de cette population.
Ouais, ouais.
Donc, quand j'étais à l'université, après le lycée, j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, j'ai découvert tout un monde de la culture tzigane et surtout manouche, et aussi la politique des tziganes aussi, parce que ça, c'est un sujet très, très important, surtout pour les tziganes de l'Europe depuis longtemps. Donc, après ça, c'est une longue histoire, mais j'ai décidé de me consacrer à la recherche de la culture, la musique et la langue des manouches français. Et j'ai découvert beaucoup de choses que j'ai... éventuellement, j'ai écrit une thèse qui est devenue un livre. Dans ces œuvres, je parle beaucoup de l'origine du jazz manouche, de la musique de Django Reinhardt et surtout ce qui signifie cette musique pour cette population, surtout en Alsace.
Ouais, puis parce que de toute façon, on peut faire un parallèle ici. Là, je veux dire, les Tziganes, ils sont partis. C'est les Saintis qui sont partis d'Inde. Ils ont été chassés d'Inde il y a au VIe siècle. Là, ça fait quand même longtemps que c'est un peuple qui a voyagé beaucoup, qui a été ostracisé dans plusieurs régions d'Europe. Puis il y en a une certaine partie qui sont allés en Afrique du Nord, d'autres en Espagne, et la souche de laquelle Django Reinhardt est issu vient plus de l'Allemagne, peut-être, enfin de la Turquie, ensuite de l'Allemagne. Mais là, ces gens-là ont été ostracisés. La Deuxième Guerre mondiale, on parle souvent des Juifs, mais les Tziganes étaient aussi dans la mire des nazis. Alors, cette musique-là, vous dites, c'est leur exutoire, c'est leur façon de raconter leur histoire, en fait.
Oui, alors c'est une histoire qui est vraiment très très difficile pour cette population depuis qu'ils sont partis des ancêtres des Tziganes d'aujourd'hui. Ils sont partis de l'Inde il y a 1000 ans et puis ils ont, comme vous venez de dire, ils ont rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de rejets. Mais les Manouches, spécifiquement, ils sont très prochement liés aux Sintis. Et donc ça, c'est une population de Tziganes qui est vraiment surtout en Allemagne et aussi dans les pays de l'Europe de l'Ouest.
Oui, oui, oui.
Et donc les Manouches. Et les Manouches sont présentes en France depuis, ça fait quelques siècles, qui sont là, ou bien leurs ancêtres, mais ils ne sont jamais vraiment considérés comme des Français par la société dominante. Donc, même s'ils se sont assimilés de plusieurs façons, ils rencontrent toujours ce rejet. On l'a vu surtout son apogée, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis le 19e siècle et bien sûr le début du 20e siècle, ils ont rencontré beaucoup de discrimination et surtout des lois qui les ostracisaient et qui essayaient à définir le statut légal comme des nomades. Et donc, ça a ouvert la porte à beaucoup de discrimination. Et donc, pendant les années entre 1940 et 1944, il y a eu beaucoup de persécutions, même 1945-1946. Et donc, après, ils ont eu beaucoup de difficultés à remonter leur vie.
Ouais.
Parce que l'État ne l'est pas du tout. Mais bon, ça c'est des histoires qui sont pas vraiment très très heureuses. Mais après, avec la musique, ça a beaucoup changé beaucoup de choses. pour beaucoup de communautés, surtout au niveau de leur visibilité.
Vous êtes américaine. Quel parallèle faites-vous entre la musique blues et jazz américaine, qui était aussi la voix d'une population ostracisée, là? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire ou est-ce que c'est pas vraiment pertinent?
Je pense qu'on peut faire des parallèles, et surtout dans ma recherche. Alors, la plupart de ma recherche, c'est à la fois c'est historique, mais c'est aussi ethnographique. Donc, je passe beaucoup de temps en parlant avec beaucoup de monde, en faisant des interviews, et vraiment à prendre leurs avis sur le jazz manouche et la politique de la musique. Et donc, j'ai beaucoup entendu de plusieurs personnes qui se sentent une sorte de lien avec les Américains, les Afro-Américains qui ont vraiment développé le jazz ici. Et ils croient que le jazz en soi-même, c'est une musique de libération, et c'est aussi une musique qui est venue d'une population marginalisée. Il y a des gens qui voient ces parallèles. Moi, je vais pas dire que je suis tout à fait d'accord, mais je crois que c'est vraiment très intéressant de voir ces parallèles et d'entendre une sorte d'esprit ou d'âme dans cette musique qui est vraiment touchant pour beaucoup de monde.
Vos recherches sont portées sur l'Alsace. On va écouter une pièce avant d'en parler, qui est justement d'un Alsacien très célèbre, M. Birelli Lagraine, qui reprend la pièce Djangology qu'on a entendue tout à l'heure, mais là, c'est la version moderne. Ici, Birelli Lagraine est avec un autre grand du jazz manouche, Stokelo Rosenberg, 2002. Thank you. Djangologie par un des géants du style, un des géants actuels, un héritier de Django Reinhardt, Birelli Lagrène, qui était accompagné de Stokelo Rosenberg. Des grosses pointures, comme on dit en France. Pièce enregistrée en 2002, donc on voit un peu le contraste ici. Birelli Lagrène est évidemment d'Alsace. Siv, vous avez, ça a été votre champ d'étude, l'Alsace. Est-ce qu'il y a une particularité au jazz manouche alsacien pour donner des gens aussi brillants que Birelli Lagrène, en fait?
Ah oui, il y a alors chaque région de la France a ses particularités du jazz manouche, et surtout ça dépend des communautés manouches. Donc je dois dire d'abord qu'il y a beaucoup de façons de jouer du jazz manouche, et ça dépend aussi des façons dont on apprend. Donc on peut apprendre d'une façon on peut dire entre guillemets non manouche, où on a des feuilles, on lit les notes. Et on apprend d'une manière qui est enseignée dans les conservatoires et tout ça. Et donc, c'est une approche qu'on appelle normalement une approche gajo. Gajo, ça veut dire une personne non manouche. Mais il y a aussi la façon d'apprendre à la manouche. C'est vraiment avec les oreilles, avec les yeux, mais en regardant et en entendant ce qu'on fait devant soi. Et donc, je dis tout ça pour dire que il y a certaines communautés manouches qui ont leur propre façon de jouer et d'apprendre et d'enseigner la musique. Et donc en Alsace, cette particularité, c'est vraiment, on dit qu'il y a une certaine âme à cette musique, il y a une force, surtout dans la main droite. Qui est vraiment très puissant. Il y a une improvisation qui est un peu brusque et qui a beaucoup d'énergie. Donc j'utilise des adjectifs qui utilisent aussi les gens avec qui je fais ma recherche. Mais ça c'est l'essence de cette façon de jouer en Alsace.
Ouais, puis d'ailleurs on l'entend quand on écoute Birelli Lagrène, là, il y a vraiment de la puissance, il y a de la rapidité, mais il y a de la vélocité en fait, mais il y a de la puissance aussi énorme. Mais dites-moi, les gadgets, justement, vous en parliez, est-ce que tout le monde peut jouer du manouche, ou est-ce qu'il faut absolument être manouche là, parce que tu sais, chacun va revendiquer un peu son truc, mais c'est d'abord, on l'a dit tout à l'heure, une musique pour un peu un cri du cœur d'une communauté qui a été ostracisée, mais maintenant les non-manouches, les gadgets, comme vous dites, selon la son appropriée, est-ce que ça passe bien, ça, dans les communautés manouches, le fait que la musique soit devenue un petit peu plus universelle ou accessible à tous, là?
Ah oui, alors je dois dire d'abord que cette musique s'est ouverte à tous. Et donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde veut que tout le monde joue. Donc, il y a des façons différentes à jouer, mais je veux pas donner l'impression que les manouches, les communautés manouches sont contre le fait que les gadgets jouent du jazz manouche. Par contre, ils aiment accueillir du monde. Mais il y a les problèmes viennent quand il y a des gens, des gadgets qui se prennent pour des manouches et qui font des impressions comme s'ils sont vraiment manouches de leur origine. Et donc ça c'est certainement de l'appropriation, c'est pas honnête. Et donc ça c'est où il y a des problèmes, mais ça se passe pas très très souvent. Et donc autrement il y a beaucoup de fraternité ou de soutien pour tout le monde. Mais quand même, il y a quand même des différences des façons à jouer. Donc, ça peut se montrer parfois dans les bœufs ou dans d'autres collaborations. Mais autrement, moi, je pense qu'il y a peut-être un certain sentiment que c'est une musique qui est vraiment propre aux manouches et qu'il faut parfois peut-être même pas le garder, mais le valoriser en tant que manouche. Mais ça veut pas dire qu'il faut exclure les non-manouches.
Oui, c'est ça. On parlait d'appropriation culturelle, là, vous y avez fait référence. Où est-ce qu'on trace la ligne? Qu'est-ce qui est de l'appropriation culturelle, puis qu'est-ce qui ne l'est pas?
Ça dépend vraiment de la manière qu'on utilise pour se représenter. Et donc, si... par exemple, si on s'habille comme une stéréotype cigane, donc ça fait bien sûr ça fait qu'on se moque des ciganes ou des manouches.
Ouais, ouais.
Mais si on parle des façons de jouer, ça peut devenir beaucoup plus difficile à dire s'il y a l'appropriation ou non. Et donc, je pense que l'appropriation, ça se passe vraiment dans l'habillement, dans les mots, dans la publicité et tout ça, mais pas vraiment au niveau de la musique.
Donc, si je vous résume, on peut jouer du jazz manouche à condition de le dire qu'on n'est pas manouche, hein, finalement. C'est ça que ça revient à dire.
Oui, alors, il y a certaines personnes qui disent que on peut entendre l'identité de la personne qui joue en entendant une façon de faire l'attaque de la main droite ou d'autres techniques. À mon avis, c'est très, très difficile à le faire parce qu'il y a chacun a son style, son approche. Mais et c'est pas tout le monde qui dit qu'on peut l'entendre. Mais je pense que ça, si c'est faux ou si c'est vrai ou pas, je pense que c'est une question vraiment très intéressante à se poser parce que on parle beaucoup ces jours-là de l'identité culturelle, de l'identité ethnique et raciale et tout ça, et on parle souvent de plusieurs. Plusieurs signes qu'on peut interpréter, soit le visage, soit l'habillement, soit d'autres manières à faire d'autres choses, mais on ne parle pas vraiment beaucoup au niveau du son et des instruments aussi. Et donc, je crois que ça c'est un champ très intéressant à considérer, même si je ne veux pas dire si c'est vrai ou pas.
Bon, ben, de toute façon, parlant de manouche, là, on va écouter un groupe qui est typiquement manouche, qui s'appelle La Chaise, et on va essayer de voir si on peut justement distinguer le fait qu'ils sont de véritables manouches. Et je crois qu'ils sont alsaciens, mais vous me direz. La Chaise. Vous les connaissiez, Siv?
Oui, en fait, ou bien la moitié des musiciens. Alors, il y a Jorgy Lafleur qui fait partie de cet ensemble-là, et ça, c'est une des personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais ma recherche en Alsace.
D'excellents musiciens. Alors, malheureusement, on arrive vers la fin de l'émission. Il y a un point que je voulais aborder avec vous. C'est votre prochain projet qui s'appelle Mémoire manouche du génocide. Parlez-nous-en un petit peu rapidement. Comme je vous dis, malheureusement, on va manquer de temps.
Oh, c'est pas grave. Alors, comme j'ai évoqué Avant, c'est alors il y a eu cette persécution par les nazis des populations manouches, mais pas uniquement les nazis, c'était aussi les autorités françaises aussi.
Oui, Pétain, le régime de Pétain.
Exactement. Et donc les manouches ou bien les tziganes, en gros, ils ont subi beaucoup de persécutions, de l'internement, même de la déportation. Mais après la guerre, il n'y a pas eu vraiment de reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Et donc il y a eu beaucoup de répercussions sur ça, parce que les populations qui ont été libérées bien après la fin de la guerre, ils n'ont pas été vraiment réintégrés à la société française. L'État, il faisait presque rien pour eux. Et donc, il y a ce côté-là du fait qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance publique, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent encore, qui ont survécu à la guerre. Et donc, il y a une sorte de manque de mémoire qui se transmet, bien une mémoire qui ne se transmet pas très, très bien. Mais par contre, il y a des jeunes manouches qui s'intéressent à cette histoire, qui n'ont pas subi les mêmes traumatismes, qui sont un peu plus ouverts que leurs ancêtres à parler de cette expérience. Et donc ce projet, prochainement, je vais vraiment faire de la recherche avec des personnes qui ont fait des œuvres, ils ont créé des œuvres musicales, bien des films, de la littérature, qui commémore cette expérience-là, ou bien des gens qui veulent faire ces commémorations. Et donc, ça, c'est vraiment l'esprit du projet. C'est vraiment de se focaliser sur les générations plus récentes et ce qu'ils font pour la mémoire de la guerre.
Bien, on vous souhaite la meilleure des succès. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps que nous avons. Alors, on termine avec une pièce encore de Lachez qui s'appelle « Pêche à la mouche ». Merci d'avoir été là. Invité Siv B. Lee, régie Maurice Bolduc et Jacques Bernard, co-réalisation et conseil avisé Jacques Bernard, réalisation, animation et thème d'ouverture Marc Levasseur. On se revoit de nouveau bientôt pour un autre épisode de Django et compagnie. Merci.